Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous avec les auditeurs. À votre avis, dialogue dans le règlement des conflits, avec notamment dans le Sahel, au Mali, les autorités de transition ont donné mandat au Haut Conseil islamique de négocier avec les chefs djihadistes Iyad Ag Gali et Amadou Koufa, ce qui était en droite ligne des conclusions du dialogue national inclusif tenu en décembre 2019 au Mali. Alors, selon Moufa Haïdara, le chargé des négociations du Haut Conseil islamique du Mali, le Mali est un vieil pays, traditionnel et avec une culture du dialogue. Alors, la question pour les auditeurs, faut-il dialoguer avec les djihadistes, les groupes djihadistes, et sur quoi faut-il dialoguer? Alors, en attendant les auditeurs, je peux vous lire quelques commentaires. Par exemple, Yvan Grand Garçon nous dit « L'échec des Américains en Afghanistan a montré que la force ne règle pas tout ». Abdurrahman Abdullah Bahar nous dit « La seule manière de dialoguer avec le terrorisme, c'est de combattre donc les terroristes ». Et puis Léonce Dembélé nous dit, les djihadistes sont clairs que le pays devienne islamique, c'est tout. Donc, s'il y a une probabilité que le pays peut devenir islamique, pas de problème, en tout cas selon lui. On peut dialoguer un petit temps avant qu'il ne le devienne. Et puis Ibrahim Lebi nous dit, je ne dirais pas que le dialogue est une mauvaise option dans un conflit, mais dans le cas du Mali, est un cas particulier vu de nombreux groupes djihadistes sur son sol. La paix sera d'une courte durée selon donc Ibrahim Le Béni. Nous avons Alphonse Mbouaki depuis Kinshasa. Bonsoir Alphonse.
Bonsoir Abdou. Moi je pense que toutes les questions sont bonnes, hein. Mm-hmm. Notamment celui des dialogues, hein. Depuis longtemps, mise en place l'option armée, ça n'apporte pas de résultats. Mais je pense qu'avec le dialogue, cela a déjà réussi au Mali. Hein, lorsqu'on a libéré Soumaïla Cissé et d'autres otages, c'était grâce aux négociations avec des troupes traditionnelles, ont négocié avec les djihadistes. Donc je pense que cette fois aussi, on peut tenter. Surtout que les facilitateurs, c'est le Haut Conseil islamique. Les élites se réclament de l'islam. Je pense que c'est un facilitateur, c'est un intermédiaire qui peut être accepté par qui a de l'aura auprès des djihadistes. Et donc, je pense que l'objet des négociations est connaître les motifs, les motivations, ce qui entraîne les djihadistes à pouvoir appliquer cette méthode-là de djihadisme. Après, on va discuter sur leurs motifs, sur
leurs revendications, leurs demandes. Mais Alphonse, un peu l'inquiétude. Peut-être pour certains, nous savons que ces groupes demandent l'application de la loi islamique, alors que le Mali, par exemple, est un pays laïque, même s'il est majoritairement musulman. C'est peut-être une source d'inquiétude pour certains, en tout cas. Jusqu'où on peut aller dans le dialogue, selon vous?
Moi, je pense que le gouvernement placer des préalables avant les discussions, c'est-à-dire parler, montrer, dire, avertir aux députés qu'il y a deux points sur lesquels ils ne peuvent négocier, notamment la laïcité et ensuite l'unicité du Mali. Donc ce sont deux points sur lesquels jamais on peut on peut arriver à la modification. Donc ce sont deux préalables, en tout cas, qui, non négociables. Ensuite, on va entendre que les djihadistes vont répliquer. Donc, je crois que les chefs ne peuvent pas être appliqués à ceux qui à ce qu'ils acceptent, pas à tout le monde, pas imposer cela à tout le monde.
D'accord, merci. Merci beaucoup, Alphonse. Depuis Kinshasa, nous avons Asmaïlou qui nous appelle de Lomé au Togo. Asmaïlou, bonsoir. Asmaïlou, vous êtes là?
Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir, on vous écoute.
Bon, comme cela, moi, je l'ai dit dans mon commentaire, je ne pense pas qu'on peut négocier avec ceux qui les tuent quand même. Parce qu'aujourd'hui, prenons l'exemple des autres pays. Aujourd'hui, les présidents de l'Afghanistan, ce n'est pas avec la discussion. C'est lorsque on vient, les vainqueurs viennent conquérir le lieu, qui peuvent négocier avec les anciens et avec les malfaiteurs pour voir leur position sur laquelle on peut les poser pour que la vie continue. Mais aujourd'hui, chercher à dire, on veut dialoguer avec eux, c'est pour montrer d'une part peut-être la faiblesse ou bien le manque de stratégie pour les abattre.
Donc vous vous considérez cela comme un manque, disons comme une faiblesse. C'est peut-être aussi un autre moyen de peut-être d'aboutir en tout cas à une certaine stabilité sans forcément abandonner certains principes.
Oui, bon, d'abord, moi je ne crois pas que ces djihadistes-là, c'est eux qui sont autoritaires au pays. Les autorités sont là, c'est eux qui doivent prendre toutes les formes ou bien tous les moyens pour pouvoir les vaincre. Mais si aujourd'hui on cherche à les éloigner, à faire un dialogue, c'est que il y a un peu de peur parce qu'aujourd'hui, eux ne vont pas venir faire dialogue et se limiter. C'est déjà un travail pour eux. Donc,
d'accord,
à base de ça, ils vont continuer à faire les otages et à chaque fois, il faut aller négocier, il faut aller verser ses sommes. Non, il faut qu'on les montre que la tuerie, il faut poursuivre, on n'a qu'à les poursuivre jusqu'au bout. Et après, s'ils veulent négocier, on négocie avec eux. Mais aujourd'hui, chercher à faire dialogue avec eux, c'est donner aussi une caution à leur forfait.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup à Asmaïlou qui nous appelait de Lomé au Togo. Christian Djirabé, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, vous nous appelez de N'Djamena. Vous dites que le dialogue n'aboutira pas, c'est ça?
Oui. Il faut voir ce que les djihadistes revendiquaient. Le Mali était un état laïque, mais si les djihadistes revendiquaient ce qu'on sort en la loi islamique, ce dialogue ne va pas aboutir à quelque chose. Il faudrait qu'ils déposent les armes et qu'ils regagnent la légalité. Comme ça, ils vont dialoguer, mais garder leur position pour instaurer la loi islamique dans ce pays, ce dialogue ne va pas aboutir. L'autorité doit s'imposer par tous les moyens.
D'accord, mais sur le terrain, la réalité du terrain, on la voit. C'est un peu difficile, en tout cas pour l'armée malienne et les forces internationales, de contrôler carrément la situation. Donc dans ce cas, est-ce qu'il ne faudrait pas voir un peu s'il y a d'autres options que celles militaires?
Cette option ne va pas aboutir. Hein. Le dialogue ne va pas aboutir au Mali. Il faudrait que la force... Il faut avoir la volonté avec les pays puissants de décider de libérer la Syrie, de libérer le Mali.
D'accord.
Là, il faut dialoguer, c'est la même chose qui est faite encore. On ne peut pas continuer à dialoguer. Et au moment où la personne mettait toujours sa position, le dialogue ne va pas aboutir.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup, donc Christian Djirabé, depuis N'Djamena. Nous avons Idriss Ouattara, depuis San Pedro. Idriss, bonsoir.
Bonsoir, VOA.
Alors, votre point de vue sur la question du jour, dialoguer ou pas dialoguer avec les groupes djihadistes?
Moi, il est nécessaire qu'on dialogue. Il faut dialoguer avec ces... Il n'est pas temps de pour négocier. Je ne pense pas aussi que la solution soit les armes. Comme je l'ai dit toujours depuis longtemps, je le répète, à un moment donné, il faut faire la guerre des idées. Il faut confronter les idées pour voir ce que ça va donner. Si les armes pouvaient résoudre l'affaire pendant 8 ans, voire même 9 ans, je pense que le problème était fini. On pouvait au moins chercher à détruire tous ces djihadistes. Mais si pendant 8 ans, on n'a pas pu détruire ces djihadistes, Je pense que la meilleure solution, c'est de dialoguer avec ces gens-là, voir une fois. Parce que pour le moment, d'autres sont là, il ne faut pas dialoguer. Entre temps, le Mali est dans une guerre qui se propage du jour au lendemain. Et je dirais même juste en Côte d'Ivoire ici, la dernière fois où il y a eu des attaques terroristes, les cerveaux étaient au Burkina ou au Mali. Donc pour moi, il faut dialoguer. Il faut chercher à diagnostiquer le problème. Quel est le réel problème de ce fondamentalisme? Et à connaître le problème, je pense, on peut au moins se donner des idées et puis chercher à aller à la paix. Sinon, les armes ne pourront pratiquement rien faire.
Alors, on évoque souvent la question du développement est souvent évoquée, la question de l'investissement dans ces zones. Vous pensez que c'est sur ça peut-être qu'il faudrait mettre l'accent?
Mais bien sûr, monsieur le journaliste, aujourd'hui, quelqu'un qui n'arrive pas à se procurer $2 par jour, et quelqu'un vient lui dire, ok, moi je te donne $20 par jour, voici ce que je décide, comment dire, je veux que tu fasses pour moi. Et effectivement, quand vous regardez ces territoires, entre guillemets, sous le contrôle des autres, je dirais que c'est la misère totale. Donc il faut quand même le développement. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire en dialoguant.
D'accord.
On va forcément trouver une solution. Et d'autres me disent qu'il ne faudrait pas qu'on discute comme ça. Est-ce que c'est la bonne foi de ces djihadistes? Mais tous les acteurs, si on veut regarder la bonne foi de tous ces acteurs, on ne va pas arriver à quelque chose. Donc il faut un compromis. Et il y a forcément un compromis, il faut qu'on s'entende sur quelque chose, que ce soit la France, que ce soit l'État malien, que ce soit les djihadistes. De toutes les façons, si on s'assoit à la table de négociation, on va se comprendre. Le Mali n'a pas dit de négocier avec tous les terroristes, seulement les terroristes locaux. Ceux qui sont maliens, sûrement quelque chose ne va pas avec l'État central, c'est pourquoi aujourd'hui on vit cette crise. On ne peut pas prendre les choses en haut pour dire non, ce sont des djihadistes, des terroristes, ils menacent. Pourquoi ils nous menacent? Il faut chercher à savoir pourquoi ils menacent.
D'accord.
Il faut chercher à résoudre ce problème.
Merci beaucoup, Idriss, depuis la ville balnéaire de Saint-Pétron, Côte d'Ivoire. Nous avons Léon Akonda depuis Kinshasa. Léon, bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous les députés de VOA Afrique.
Alors, on vous écoute, votre point de vue sur la question du jour.
Oui, je pense que dialoguer, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Dans un pays, la deuxième guerre mondiale a été finie par un dialogue, par un accord, par des armistices. C'est ce que je me suis dit. Le dialogue avec qui? Avec les gens peut-être qui vont retirer encore leurs armes contre la population. Peut-être de dialoguer avec ces gens-là. Après un dialogue, il y aura aboutissement d'un accord. Il fallait peut-être faire un gouvernement d'union nationale. Il faut peut-être intégrer certains chefs rebelles, certains djihadistes dans l'armée, au sein de l'administration publique ou bien dans le gouvernement. Est-ce que ces gens-là ne vont-ils pas se renforcer pour retourner après 1, 2, 3, 4, 5 ans leurs armes contre la population civile, et quand ils ne seront pas satisfaits à 100% dans leurs revendications? C'est ça le problème. Mais moi, je pense que aussi, le Mali, le gouvernement militaire malien qui est en place actuellement a fait un contrat avec une société militaire russe pour tuer peut-être des mercenaires ou des soldats russes pour les aider à combattre les djihadistes. Alors, maintenant, si nous avons fait un contrat militaire avec la deuxième puissance militaire du monde, je pense que la Russie va nous aider à chasser ces gens par la force ou bien à imposer ces gens-là à se rendre par eux-mêmes ou bien vraiment à imposer l'autorité de l'État malien dans tous les quatre coins du territoire malien. C'est ça que moi je pense. Mais s'il faut d'un côté faire le contrat militaire et de l'autre côté dialoguer avec les djihadistes, parce qu'en Afrique, on a déjà cassé peut-être les relations militaires avec la France, pas cassé, mais certaines relations se sont fondues.
D'accord, en tout cas.
Ça sera une contradiction du gouvernement malien.
D'accord, merci beaucoup. Merci Léon.
Moi, imposer la force à ces gens-là qui ont.
Vous n'êtes pas tellement en faveur du dialogue, si je vous comprends bien. En tout cas, merci beaucoup, Léon. Nous avons Sénat depuis le Togo. Sénat, bonsoir.
Bonsoir à VOA, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors vous n'êtes pas contre le dialogue?
Non. Pour mon point de vue, c'est une bonne idée d'attendre un dialogue avec les djihadistes pour amener la paix au Sahel et la sécurité. Et c'est aussi une bonne idée d'avoir convoqué la Haute Conseil islamique pour faire avancer la chose. Parce qu'en Afrique, partout en Afrique, ce n'est pas seulement au Mali, ce n'est pas seulement au Sahel. Nous avons besoin de la paix en Afrique. Et nous avons besoin de la sécurité en Afrique. Donc ce dialogue qui a pour objectif d'amener la paix en Afrique, dans le Sahel, partout dans le monde, moi je suis pour. Donc c'est une bonne idée pour le dialogue de discuter avec les djihadistes, de les ramener à la raison pour que nous puissions avoir la paix et la sécurité dans le Sahel. Merci à vous.
En tout cas, merci beaucoup, Sénat, d'avoir appelé. Vous étiez en ligne du Togo. Eric, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous nous appelez quelque part en Afrique du Sud. Alors, on vous écoute.
Oui, d'abord, pour moi, le dialogue est un moyen de résoudre un conflit de manière pacifique. Mais dans le cas du Mali, il faudra d'abord faire une identification des djihadistes pour voir s'ils sont réellement maliens pour entamer les discussions avec eux. Mais s'ils sont réellement maliens, il faut aussi prendre en considération ils ont un cahier des charges qui leur a poussé de se comporter de cette manière. Et le gouvernement doit discuter avec eux de trouver des moyens que ces gens-là puissent déposer les armes et rejoindre, par exemple, ceux qui veulent faire rejoindre les forces maliennes ou rejoindre continuer avec les activités politiques, peuvent les continuer. Mais s'ils ne sont pas maliens, le Mali doit prendre ses responsabilités devant l'histoire pour mettre fin à la présence de ces djihadistes dans ces territoires.
Alors, Eric, le gouvernement malien a dit qu'il n'allait négocier qu'avec les groupes locaux. Donc, tous ceux qui ne sont pas maliens ne sont pas en principe concernés par cet appel au dialogue.
Bon, là, c'est une bonne chose parce que là, maintenant, dans ces cas, le gouvernement malien doit aussi collaborer avec le pays de la région pour éradiquer définitivement la présence de ces djihadistes. Mais il y a un problème qui se pose lorsque certains pays de la région s'opposent aussi à la présence de la société Wagner. Dont le Mali cherche, qui n'est pas encore confirmé, je ne peux pas aussi confirmer, envoyer ses troupes sur le terrain au Mali pour combattre. C'est aussi un problème, parce que la France aussi se méfie de la présence de ces gens-là au niveau de la région du Sahel, voire même le Tchad, j'avais suivi ça quelque part. Donc, ça va aussi poser problème. Voilà pourquoi les autorités maliennes doivent jouer à la sagesse en collaborant avec le pays de la région, de trouver des mécanismes, parce que le Mali à lui seul ne saura pas affronter ces djihadistes-là qui sont éparpillés par-ci par-là dans la région du Sahel.
D'accord.
Voilà pourquoi il est nécessaire pour eux de consulter certains pays de la région.
Voilà, merci beaucoup.
Et surtout de jouer à la sagesse.
Absolument, merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé. Nous avons Abou depuis la Guinée, c'est ça? Abou, bonsoir.
Oui. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à tous les auditeurs.
D'accord, donc vous semblez dire qu'en fait les autorités maliennes ont vu la réalité d'en face.
Exactement. Je comprends parfaitement la réaction de mes prédécesseurs lorsqu'ils ne sont pas favorables pour le dialogue. Mais aujourd'hui, la situation du Mali, il faut d'abord féliciter le président de la transition, Assimi Goïta, pour son siècle envers son pays. Parce que nous allons voir que dans cette guerre, on ne connaît pas l'issue. Il y a eu tant de morts et il est temps de se rappeler et de voir la réalité d'en face. Parce que moi, je n'appelle pas le groupe qui est armé vers le nord des rebelles. D'ailleurs, pour moi, c'est les Maliens. C'est des Maliens parce qu'ils ne sont pas en contradiction avec la République du Mali, nous qu'on peut les qualifier de rebelles, et ils sont en contradiction avec ceux qu'ils qualifient des envahisseurs. Et alors aujourd'hui, si le mouvement est là et très opportun, il faudrait qu'on dialogue avec ces gens pour les ramener sur la table en disant oui, voilà, si hier les problèmes étaient comme ça, aujourd'hui nous les traiterons comme ça et nous vous appelions pour bâtir un Mali fort et uni. Et donc, pour les appeler à la négociation, moi, je ne vois pas d'opposition, surtout lorsqu'on dit qu'ils vont venir sur la table et c'est des personnes qui sont armées. Ils sont armés par qui? Il faudrait qu'on connaisse ça, parce que ce n'est pas des rebelles, c'est des Maliens. Ils sont armés par qui? Et lorsqu'ils veulent régler leurs problèmes entre Maliens, je ne vois pas le contraire. C'est pourquoi ça choque les gens pour dire que non, nous ne voulons pas les négociations avec ces gens. Mais à quand ça va finir la guerre alors qu'il y a au Mali? Si on ne négocie pas avec ces gens.
D'accord, merci beaucoup, Abou. On a bien compris. Merci beaucoup, Abou. On a Charles Bazema depuis le Burkina. Charles, bonsoir.
Oui, bonsoir à vous et bonsoir à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Ok, moi je suis partant avec la négociation avec les terroristes. Parce que depuis lors, mon cri d'état était de négocier avec les terroristes. Si vous voyez, depuis 2012 jusqu'à présent, avec les armes, rien n'a donné et rien n'a changé. Maintenant, si nous partons sur. D'ailleurs, même, il y a dans certaines zones du Mali et du Burkina même, il y a négociation entre les chefs locaux et les groupes d'armée. Voilà, donc si on partait sur ce plan, négocier avec les groupes d'armées, et puis voir à ce comme on doit négocier, à ce qu'on ne doit pas négocier, parce qu'il y a d'autres qui sont venus d'ailleurs. Voilà, et ils sont venus faire leur trafic. Voilà, donc ça qu'il y a la sécurité.
Donc il faut bien faire la différence entre les groupes avec qui il faut dialoguer, n'est-ce pas?
Oui, d'accord. Il y a les groupes qui font dialoguer, mais il y a d'autres. Et comme ils ne doivent pas dialoguer, ils viennent d'ailleurs parce qu'ils voient que le terrain est fertile à leur business. Donc, ils profitent pour.
D'accord.
Voilà. Comment on appelle ça? Bâtonner, tuer la population.
Merci.
Et créer la population.
Merci beaucoup, Charles. Nous allons prendre notre dernier auditeur, Archiduc Théodore, depuis N'Djamena. Bonsoir.
Oui, bonsoir, la VUA, et bonsoir à tout le monde.
Alors, vous insistez sur l'aspect stratégique du dialogue. On vous écoute.
Effectivement, moi, je n'exclus pas le dialogue parce que le dialogue a une importance capitale dans toute négociation parce que dans le cadre du djihadisme, ça permettra d'identifier les représentants de ces djihadistes, d'essayer d'évaluer aussi leurs revendications et aussi de faire un plan de stratégie d'espionnage sur ce qui sont ces gars-là, qu'est-ce qu'ils cherchent, où ces gars souhaitent y aller. Donc, le dialogue dans un processus de négociation avec les djihadistes, ça va être capital, d'autant plus que à la guerre contre la guerre, c'était une stratégie qui n'a pas marché et si on souhaiterait avoir une stratégie afin que toutes les populations d'une certaine nation dans leur généralité aient de la paix, il faut mettre au devant le dialogue parce que le dialogue peut apporter un plus dans la résolution des conflits armés.
Alors, mais ça dépend aussi des revendications, n'est-ce pas? Surtout quand c'est confessionnel. Si par exemple, on sait que la charia est au top de leur priorité, ça peut poser problème, non?
Effectivement, parce que lorsqu'il y a dialogue lors de ces rencontres, il est important de faire, par exemple, comprendre aux représentants de ces djihadistes que nous sommes dans un pays multiculturel, multireligieux où la charia dans sa totalité ne peut pas s'y installer. Et c'est comme ça qu'on devait vivre, que nous sommes des humains, malgré nos différences, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et dire que, bon, dans telle localité, tu es, par exemple, 100% musulman, on peut instaurer la charia. Mais
merci beaucoup.
Les conséquences de la charia.
Merci beaucoup, Archiduc. Nous arrivons au terme de cette émission. À votre avis, à la partie technique, donc il y avait Fatouma Kalala qui a assuré donc la mise en onde et la production, présentation Abdourahman Dia. Restez en compagnie des programmes de VOA Afrique.